Une émission 100% animation ce soir pour le Énervé la suite. Pour en parler dans le studio 621 de la Maison de la Radio, quatre invités. Philippe Delarue, je commence par vous. Vous êtes producteur, vous êtes celui à qui l'on doit notamment les films Minuscules et le 2 sort en DVD demain. Ça vous va comme présentation ?
Oui, très bien.
Jérémy Clapin, vous êtes réalisateur. Grand prix de la semaine de la critique à Cannes pour J'ai perdu mon corps, un film qui sera présenté au Festival international du film d'Annecy. Ça vous va ?
C'est très bien.
Enfin, Patricia De Wilde, vous êtes directeur, vous êtes directrice du marketing de Timto. C'est comme ça qu'on dit ? Timto, hein ?
Timto, ouais.
Studio d'animation et de production et membre fondatrice du collectif Les Femmes s'animent.
Exactement.
Et enfin, Guillemette Audicino, vous êtes journaliste, vous êtes critique à Télérama, à France Inter, et vous co-signez Toscan, Papa et moi à La Martinière. Ça vous va comme présentation aussi ?
Ça me va super bien le temps que je lèche mon coca avec.
Très bien, parfait, générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau ?
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir ou bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Le Énervé la suite s'anime ce soir à l'occasion du Festival d'Annecy, le meilleur rendez-vous du cinéma d'animation, un rendez-vous important pour la France qui est, je le rappelle, le troisième pays sur la carte mondiale du genre après les États-Unis et le Japon. Alors à 10 jours d'Annecy et au lendemain du Festival de Cannes qui vient de récompenser d'un grand prix, et c'est une première pour la semaine de la critique, le film d'animation français « J'ai perdu mon corps » signé Jérémy Clapin. On se pose plusieurs questions ce soir. J'y vais pour les questions. Quel visage le prochain festival d'Annecy va-t-il présenter de l'animation française ?
C'est noté.
On dirait question pour un champion, oui. Vous savez ? Une place à prendre. Le cinéma d'animation hexagonal peut-il crier victoire face aux blockbusters, notamment américains ? Comment l'animation pour adultes arrive-t-elle enfin à s'imposer ? Et enfin, à l'heure du 50-50, l'animation est-elle un exemple ou pas à suivre en ce qui concerne la parité. Cinéma d'animation français pas si minuscule, c'est le titre que vous avez pondu.
Oui.
Mon petit Mickey.
C'est ça.
De Benoît Lagane. Pour se énerver la suite, manifestement très animé.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Et on va parler lentement cette fois-ci, et on va pas gueuler pour pisser dans mon micro, parce que c'est comme ça qu'on dit à la radio.
Oui, oui.
Quand ça,
quand on parle d'animation,
c'est pisser dans les micros.
Quand on parle d'animation, je pourrais parler vite et puis pisser dans les micros. Bon, on sait, l'animation, Laurent, existe en France de façon artisanale depuis 125 ans. Ça, c'était Laurent Vallière qui avait écrit il y a 2 ans un livre sur l'histoire de la French Touch qui nous l'avait raconté. Ce secteur, en fait, de l'animation en France, il a eu une longue histoire, et si la France est si bien placée en troisième position, c'est notamment grâce à une aide d'État. Dans les années 80 et 90, les ministères de la Culture ont beaucoup défendu l'animation.
Merci.
Merci. La France aujourd'hui est donc le troisième créateur mondial. Pour se faire une idée d'à quoi ressemble l'animation dans le monde, il faut aller à Annecy, au bord du lac, pour y découvrir depuis les années 60 le meilleur du cinéma d'animation. Et comme l'histoire de l'animation française, le festival va prendre lui aussi son essor dans les années 80-90. Et en 97, il passe enfin au rythme annuel. Parce que jusque-là, il fallait y aller tous les 2 ans. L'animation, ça ressemble à quoi aujourd'hui ? Si je regarde la programmation de cette édition, c'est Playmobil, le film, c'est Toy Story 4, mais c'est aussi...
Toy Story 4 ?
Eh oui, ils en sont là. Le Voyage du Prince, le nouveau film de Jean-François Laguioni, celui à qui l'on doit Louise en hiver ou Le Tableau, ou votre film, Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps. Nos talents français sont pompés, comme les Shadocks, Laurent, par les gros studios américains, DreamWorks en tête, Minuscule s'exporte dans 50 pays, J'ai perdu mon corps cartonne à Cannes et on l'espère à Annecy, donc tout va bien, tout va bien, enfin sans doute, mais tout ça ne reste-t-il pas un peu fragile ? Philippe Delarue, Jérémy Clapin, c'était le bilan que faisait, je le cité tout à l'heure, Laurent Vallière, dans son livre il y a 2 ans sur le cinéma d'animation français, il disait « Tout est fragile parce que tout est soutenu finalement encore par l'État en France ». C'est toujours le cas, Philippe Delarue ?
Oui, oui, depuis effectivement le plan image que vous évoquez, de Jacques Lang à Catherine Tasca, le gouvernement de la République française soutient vraiment le développement de la production, de la création et de l'exportation de l'animation française.
Donc s'il voulait arrêter, ça serait fini ?
Pardon.
Si l'État voulait arrêter, couper et vivre.
Ça serait compliqué, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. C'est vrai qu'on a vraiment de la chance en France d'avoir ça, ce soutien-là, c'est sûr.
En quoi c'est compliqué en France ?
C'est compliqué de toute façon quand on a un projet, je parlais pour mon projet, un projet de film adulte, de le vendre déjà à l'étape du scénario, c'est pas évident de convaincre sur quelque chose qu'on veut un peu nouveau, parce que pour être à la hauteur de ce qu'on veut viser les adultes, il faut quand même être assez rigoureux dans l'écriture. Et c'est toujours, ça passe souvent par des dossiers qui sont, qui passent souvent par une image très jolie, alors qu'un film adulte, c'est pas forcément, ça a pas vocation à être joli. Mais on doit jouer la carte de la séduction sur le dossier. Et souvent, ça plaît d'avoir des jolies images. Et le propos, pour autant, ça veut pas dire qu'il sera à la hauteur.
Combien d'années vous avez travaillé sur ce projet?
Alors c'est un projet qui a commencé, en tout cas mon producteur m'a rencontré en 2012, c'est son idée d'adapter un livre de Guillaume Laurent. Ouais. Et en 2012 j'ai commencé à l'adapter avec le scénariste, avec l'auteur du bouquin qui est devenu le co-scénariste de l'adaptation. Et évidemment c'est pas un boulot à plein temps, donc ça s'étiole pas mal et puis on essaye d'avoir des aides pendant très longtemps et en fait on a eu très peu de soutien pour le coup là. Notre film n'a pas été très très suivi derrière, à la fois par les diffuseurs, le CNC un petit peu. Mais c'est assez timide.
Et pourtant, votre producteur, c'est Xylam. Il est connu dans le métier pour notamment faire le carton de Oggy et les cafards qui se vendent partout dans le monde. Et ça ne suffit pas à avoir un bon producteur. Ça ne suffit pas pour avoir des aides pour un film un peu plus complexe, on va dire.
Ouais, en tout cas, ce film n'est pas identifié du tout cartoon. Donc, c'était peut-être, je sais pas, c'est peut-être un projet aussi qui était très dur à vendre sur papier. L'histoire d'une main tranchée qui part à la recherche de son corps.
Ah, c'est vrai que moi, comme producteur, je voudrais sortir du bureau et revenir avec un petit Mickey.
Et puis, il y avait ça. Et puis, l'image de Xylam, c'est vrai, n'est pas du tout dans le genre de film d'auteur. Donc, ça pouvait un peu interroger.
Et puis, si je puis intervenir, depuis Walt Disney, 1945 environ, l'animation qui était pour tous les publics avant cela est devenue très connotée pour les enfants. Hein, voilà, quoi. Et donc, aujourd'hui, quand Jérémy propose un film pour adultes avec l'animation, notamment les chaînes de télévision, ont peur de le projeter à leur public en prime time où ça leur apporte le plus d'argent et là où ils pourraient investir le plus d'argent et donc ils s'ensuivent ce qu'ils s'ensuivent.
Guillaume Todesino.
Oui, mais ce qui est fou, c'est que...
Vous avez vu le film?
Ah, c'est magnifique.
Vous étiez à Cannes.
C'est incroyable.
Vous êtes tout bronzé.
Non, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Pourtant, j'étais dans toutes les salles de projection pendant 15 jours. J'ai perdu mon corps. C'est un film magnifique. À un moment, il faut presque, hélas, enlever le mot film d'animation. Parce que, effectivement, puisque ce cliché qui continue de perdurer, c'est vraiment une catastrophe.
Moi, je pensais qu'on en avait fini, quoi.
Non, on n'en a pas tout à fait fini avec le cinéma d'animation, c'est pour les tout petits, et puis il y a des souris dans les petits coins et des oiseaux qui piopiotent. Mais, en fait, ce film-là, particulièrement, c'est un thriller. Il y a une ligne narrative passionnante. Et, en fait, l'animation permet juste que cette histoire folle puisse être mise en fait en film. Autrement, ce serait peut-être effectivement alors un vieux film de la Hammer où il y a des mains qui... Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais aujourd'hui, pour raconter ça, l'animation est le support le plus merveilleux, mais il faut dire aux gens qui vont aller voir un thriller existentiel, poétique, dingue, où on flippe.
Vous enlevez le mot existentiel tout de suite, sinon les gens ne vont pas y aller.
Les gens vont pas y aller, mais si, quand même. Mais en même temps, on a peur. À la fin du film, j'ai pleuré, comme devant un mélo hollywoodien. C'est un film qui en fait regroupe incroyablement toutes les qualités du cinéma, mais ça c'est possible, parce que c'est de l'animation, et donc en dessin, tout est possible.
Il a été acheté à l'étranger.
Je crois que Netflix a conclu un petit deal avec mon producteur. Je ne suis pas au courant de ce qu'il y a derrière ça. Mais ça arrivait tellement vite.
Soyez vigilants. Bah oui.
Oui.
Tout est arrivé très vite. Ouais. Philippe Delarue, dans le cas de Minuscule, par exemple, où là, on pourrait penser qu'on tombe dans le cliché, justement, du film qui fait coui-coui, bzz, parce qu'il y a,
il y a des
insectes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi, en l'occurrence, un film qui part, par exemple, d'un concept qui pourrait être Microcosmos, mais comment l'animation reprend l'idée que Microcosmos a pu mettre dans la tête des gens et dire, on va partir de ça et on va faire du vrai cartoon, mais avec des vraies images et du dessin animé. Comment c'est né aussi ce projet? Parce qu'il est quand même fou.
Bah, c'est né de deux auteurs brillants, très talentueux, qui ont une touche de génie, qui sont un couple à la ville, Thomas Zabo et Hélène Giraud, et qui ont, par leurs propres moyens, il y a une douzaine d'années, un peu plus que ça, réalisé un court-métrage, dont je ne citerai pas le nom à l'antenne, puisqu'il commence par Mouche, mais là, il se termine par un mot qu'on ne peut pas prononcer.
Mouche à merde. Voilà, on peut dire. Facile, hein. Ça vient d'être dit.
La responsabilité voilà. De votre intervention.
On est plus dans les années 50 quand même, ça va.
C'est quand même dingue. On peut plus dire le mot.
On dit pire voilà. Sur France Inter.
Oh, c'est vrai.
Couille. Donc, quand j'ai Thomas a travaillé pour moi sur un autre projet il y a à peu près 12 ans environ. Et on m'a dit, tiens, va voir dans son bureau, il a un truc formidable. Je suis descendu 2 étages. J'ai découvert ce court-métrage et j'ai flashé tout de suite. C'est devenu un projet passion pour moi aussi.
En fait, le court-métrage était un laboratoire pour l'animation. Parce qu'il y avait des projets ambitieux passés par le court-métrage à l'époque. Plus que par le long métrage.
Alors je sais pas vraiment parce que moi quand j'ai commencé le court métrage, j'ai fait pas mal de courts métrages. C'était pas forcément je le considérais pas comme un tremplin pour le long. Dans le court métrage, on a vraiment une grosse liberté. Et bon, peut-être en France, on est gâté du fait des subventions qu'on peut avoir et un certain confort, même confort relatif,
oui,
pour
relatif.
Faire un court métrage. C'est vraiment un espace de liberté et je trouve que c'est le format de prédilection pour l'animation. On peut essayer plein d'écritures différentes graphiques qui pourrait épuiser sur un format plus long. À partir du moment où on passe sur un format plus long en animation, en long métrage, déjà on se heurte à une rationalisation industrielle, un procédé qu'on va devoir maîtriser et les coûts et tout ça. Et donc c'est quand même deux choses.
Et vous parlez d'autocensure dès qu'on passe au long.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas tellement de l'autocensure, elle est présente partout. Déjà chez l'auteur, c'est ce qu'il y a de pire quand elle est là. Et ensuite, il y a aussi le producteur, il y a le diffuseur, l'exploitant. On se heurte à des visions. Tout le monde veut faire de l'animation adulte, tout le monde. Mais au final, il y a toujours un moment donné où il y a une peur parce que c'est des films qui coûtent cher et des incompréhensions sur la programmation, quand est-ce qu'ils vont passer en salle, etc. Donc, il n'y a pas un même cap qui est suivi. Il y a souvent, un pas en arrière au moment de la sortie et qui déstructure complètement le film. Et du coup, on n'est plus à la hauteur après.
Patrice Deville, vous confirmez, vous qui êtes.
On parle de l'international aussi, parce que quand on parle de cinéma, on parle d'exploitation internationale. Ouais. Et là, c'est encore plus hasardeux, parce que autant quand on vend des films jeunesse, on va trouver automatiquement un marché international qui sera ou en salle ou en télé ou en direct ou vidéo. Mais pour ces films adultes, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de pays. C'est pour ça que Netflix, c'est sûr que c'est une plateforme extraordinaire pour ça, parce que c'est toutes les niches du monde qui se retrouvent sur Netflix pour ça. Quoi.
Étrangement, ça peut prendre après un statut culte. Il y a un film d'animation ô combien pour adultes, enfin qui est en fait un collectif de courts-métrages justement qui s'appelle Peur du Noir, qui avait été produit par la productrice d'animation française Valérie Sherman. Ce film, quand il est sorti en salle en France, c'était aussi des dessinateurs de BD, des créateurs et tout. C'était en noir et blanc. C'était incroyablement adulte, créatif, fou. En France, ça a fait un flop. Toute la critique a été debout en disant c'est génial, mais ça a été vu par 3 personnes et demie. Maintenant.
Le et demi, j'aimerais le connaître.
Ma fille, 5 ans.
Non, mais elle appréciera.
C'est ça. Et maintenant, si vous allez à New York et que vous parlez de cinéma d'animation, par exemple, on vous dit « Peur du Noir ». C'est devenu une espèce de référence de la qualité française qui ose faire de l'adulte. Donc, mais il faut laisser le temps au temps. Le problème, c'est qu'entre-temps, il faut avoir des sous. Mais les objets, après, deviennent un peu aussi quand même des références.
On va poursuivre ce voyage au pays de l'animation. En 2011, retour en arrière, il avait signé la BO du film d'animation Un monstre à Paris. Le grand thème était en duo à l'époque avec Vanessa Paradis.
La scène, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, extra lucide, la lune est sûre. La scène, tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène. Je ne sais pas pourquoi
De la nature.
Laurent,
il y a des instincts que nous ne devons pas perdre.
Je suis un animal.
Est-ce que tu crois au destin?
Comme si tout était écrit d'avance, on suivait une sorte de trajectoire.
À moins de faire un truc complètement imprévisible et irrationnel.
Oh, vous voyez pas, c'est interdit, stop!
Chut,
c'est
Valère, la mousse, j'ai écouté le prêche, c'est moi la machia. Ça te remettra les idées en place.
Je dois amener mon épouse chez ses parents.
Sur France Inter.
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Du cinéma. Le cinéma s'anime ce soir au NRV au lendemain de Cannes et à 10 jours du Festival d'Annecy. On en parle avec nos invités. Le producteur de Minuscule, Philippe Delarue, Patricia Deville du collectif Les Femmes s'animent, la journaliste Guillemette Audicino de Télérama et de France Inter, le réalisateur Jérémy Clapin, grand prix de la semaine de la critique à Cannes et sélectionné à Annecy pour le film J'ai perdu mon corps. Qu'est-ce que ça va vous apporter à Annecy? Plus que Cannes. Parce que là, ça y est, c'est bingo.
Annecy, oui, Cannes, c'était, c'est super Cannes parce que l'animation est très peu représentée, du coup,
on est la visibilité vraiment, est totale.
Ouais, il y a eu un gros buzz sur le film, c'était vraiment super. Cannes, je connais, Annecy, pardon, j'en sors pas de Cannes. Annecy, je le connais, ce festival, depuis un moment, ça fait plus de 20 ans que j'y vais, donc c'est un peu ma chapelle, je suis vraiment ravi d'aller là-bas et de partager ça avec toute la communauté de l'animation, mais je pense que ça reste très communautaire.
Ah, ça reste communautaire? En fait.
Peut-être moins maintenant, c'est peut-être plus investi par d'autres acteurs qui dépassent un peu l'animation, mais en tout cas, historiquement, ça a été créé pour l'animation.
Vous allez voir, on va tenter un truc. Guillemette, vous allez vous faire bronzer à Cannes, manifestement. Est-ce que vous allez vous faire bronzer aussi à Annecy?
Oh ben, je pense.
Ah, vous allez à Annecy aussi?
Mais de toute façon, quand on aime le cinéma, en fait, c'est un peu les deux mamelles du truc, vous voyez. C'est-à-dire que Annecy, c'est le plus grand festival du monde d'animation. Et si on part du principe qu'on aime le cinéma, on aime donc le cinéma d'animation. Mmh. Et donc, on va à Annecy après Cannes. Alors là, il s'avère que J'ai perdu mon corps fait la doublette. Mais c'est exactement le bon positionnement. C'est-à-dire, c'est un film d'auteur. On a entendu certains dialogues là, dans votre petit jingle.
Montage.
Mais c'est magnifiquement écrit. Il y a la plus belle scène de dialogue amoureux d'interphone que j'ai jamais entendue.
Vous savez teaser, parce que là, on a tous envie d'aller voir le film.
Vous avez d'interphone existentialiste.
Ah mais oui, ah mais vous allez tomber amoureux les uns et les autres de tous les livreurs de pizza du monde entier. Il y a des dialogues magnifiques, c'est un vrai film d'auteur, et en même temps, c'est vraiment un film d'animation, avec tout le talent de l'animation, donc ça a sa place à Annecy. Donc ça fait le joint, enfin, de ça, c'est-à-dire que ce sont deux festivals qui peuvent se répondre éventuellement sur un même film d'animation.
Philippe Delarue, en tant que producteur, qu'est-ce que vous attendez d'un festival comme Annecy? Et puis est-ce que vous êtes comme Sabine Fissi de l'AFSA, l'Association Française du Cinéma d'Animation, qui dit qu'aujourd'hui à Cannes, il y a trop peu de films d'animation, par exemple?
Oui, il y en a trop peu, enfin il n'y en a pas.
Oui, mais à partir du moment où il y a un festival mondial de
Il n'y a pas beaucoup de films d'animation français, il faut dire quand même.
Elle dit que justement, si on tient compte du nombre...
De la production.
Oui, voilà, c'est ça ce qu'elle dit. Philippe Delarue.
Vous avez vu, il y a plein de questions, vous choisissez au hasard. Faites votre marché. Moi, par exemple, la première, elle ne m'a pas intéressé.
Annecy, c'est vrai que c'est un festival le plus agréable de l'année, hein, au mois de juin, au bord du lac.
Voilà,
c'est magnifique.
Et
c'est vrai que ça reste très communautaire. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens autour de vous, votre voisin de palier, qui va, comme il va peut-être à Cannes, voir des films, qui va voir des films d'animation à Annecy. Donc ça. Mais c'est notre communauté, on est 10 000, 15 000, je sais pas, mondialement.
Mais ça change quoi pour un film d'être à Annecy? Au-delà du fait que ce soit un festival,
c'est un plaisir plutôt communautaire, je pense, parce qu'effectivement, les retombées médiatiques sont pas très élevées, quoi, pas très.
Patricia De Wilde.
Je dirais que c'est quand même une reconnaissance de la communauté de l'animation mondiale. Vous avez énormément de cette année, je crois qu'il y a 250 auteurs japonais qui vont venir parce que c'est l'année du Japon. Vous avez énormément de Chinois. Vous avez vraiment tous les Américains, tous les studios américains viennent et maintenant ils viennent en nombre parce que pour montrer justement l'importance de l'animation en France, donc une consécration. Annecy, c'est quand même une consécration par rapport à ses pairs et dans son milieu, qui est à mon avis très très importante pour un producteur.
Mais Cannes, effectivement, n'a pas l'habitude depuis 50 ans de sélectionner beaucoup dans ses différentes sections de films d'animation. Cette année, on avait la chance qu'il y en ait 4, je crois, dont 3 français, dont un grand prix à la Semaine de la Critique. Je crois que c'est la deuxième fois, je crois, qu'un film d'animation a un prix à Cannes, ou un film français en tout cas, c'était La Plaine Sauvage, je crois, le dernier, il y a 40 ans, je crois.
Il y a eu un prix aussi. Voilà.
C'est formidable. Pour cette année, c'est formidable.
Il y a eu une mention cette année aussi à Un Certain Regard pour L'Invasion des Ours en Sicile. Donc, le cinéma d'animation a été présent. Il y a des belles années. On rappelle quand même l'année où il y avait à la fois Ma Vie de Courgette et La Tortue Rouge, qui était quand même une année ô combien belle. Donc, ça arrive aussi. Mais de toute façon, c'est juste aussi une question de temporalité. Parce qu'on dit que l'animation, c'est cher, c'est difficile à produire, ça prend un temps fou. Donc, quand vous avez 3 films français en image réelle qui sont prêts au moment de Cannes, il y a un seul film d'animation qui est prêt. C'est-à-dire, ça prend un temps de dingue. Donc, il faut attendre. Dans 2-3 ans, il y aura sans doute des grandes pertes.
Il y a 150 films de fiction français produits par an. Il y en a une douzaine de films d'animation français par an produits.
Mais d'accord, tout le proportion gardée, c'est à peu près...
un pour 10 ou un pour 15.
C'est ça, c'est quand même pas énorme.
Mais je pense que le prix moyen des films... est nettement plus élevé en animation que, comme vous le disiez.
Et oui, c'est très très cher, fiction, ça met du temps. Ouais. Donc, c'est normal qu'il y ait comme ça, soudainement, et pourtant, un très bel objet qui arrive.
Il n'y a pas d'acteur à payer.
Enfin, si, non, mais c'est pour les voix.
Il y a une cohorte de gens derrière.
Il y a 250 personnes qui bossent sur un film d'animation en moyenne.
Il y a des dizaines de milliers d'images à fabriquer.
Je fais l'avocat du diable. La parité est respectée dans ce milieu de l'animation, pas dans
celle
de Vivre.
En fait, traditionnellement, elle a peu été respectée.
Le cinéma d'animation, c'est un truc de mec. En fait,
tout ce qui est la partie et fabrication, oui. Alors avant, on avait effectivement les princesses, etc. Parce qu'il y a aussi les sujets abordés par l'animation.
Oui, les sujets, mais moi je vous parle des gens qui sont derrière.
Mais derrière, c'est traditionnellement, il y avait beaucoup d'hommes. Alors que quand même, depuis une dizaine d'années, il y avait beaucoup de filles dans les écoles. Et on est arrivé même à plus que la parité, je crois, aujourd'hui, dans les écoles.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
On se demande. Hein. C'est un petit peu pareil que dans le reste de l'économie. Hein. L'animation, quelque part, est un peu comme le reste de l'économie. Il n'y a pas de raison, à la limite. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on est moins macho.
Mais parce que les filles se sont autorisées aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de les écoles ont fait en sorte de s'ouvrir de manière un peu plus paritaire, mais je pense que les jeunes filles se sont autorisées à dire « Ouais, moi aussi, j'ai aimé Goldorak quand j'étais petite, il n'y a pas de raison que je dessine pas un manga. » Parce que le côté technique aussi du dessin, etc., le côté quasiment presque mathématique de la chose... scientifique, parce que certaines écoles de dessin sont quand même très 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 difficiles, quoi.
Ouais. C'est vrai que moi, en tant que producteur, je reçois très peu de projets. Le réalisateur d'une série d'animation, d'un film d'animation, c'est souvent celui qui l'a conçu à l'origine. Il y a une confusion dans des rôles, quoi. Et je reçois très peu de projets de femmes. Hein. Et pourtant, moi, ma boîte mail, mon bureau, tout
ça. Il faut qu'elle s'autorise, elle-même, il faut qu'elle s'autorise.
Elle s'autorise moins à avoir des postures de réalisatrice, de déclencheur de projet, d'auteur, etc. Donc c'est plutôt à ce stade-là qu'il faut agir, à mon avis.
À nouveau, à Cannes cette année, il y avait un exemple. C'est-à-dire, il y avait les Hirondelles de Kaboul, qui étaient présentées à Un Certain Regard et qui étaient co-réalisées par Zabou Breitman et Léa Gobet-Mévélec. Donc, double réalisation féminine d'un film, en plus, évidemment, sur un sujet fort qui concerne particulièrement les femmes.
Les femmes, ouais.
Donc ça arrive aussi.
Mais ça reste.
Je vais être un peu iconoclaste et je risque de me faire tirer les oreilles plutôt à Annecy. Je pense que dans l'animation, le grand enjeu d'égalité et d'accès au marché du travail, c'est pas homme-femme, c'est plutôt, comme dans le reste de la France, c'est plutôt classe populaire et accès aux bonnes formations et accès aux bons jobs que homme-femme. Et pour donner un exemple qui me concerne, mon entreprise et la production minuscule, dans mon entreprise, la grande majorité des femmes, des cadres sont des femmes.
J'ai cru que la grande majorité des femmes étaient des femmes.
Oui, ce qui est bien aussi, hein, mais bien que ça commence à changer.
La grande majorité des cadres sont des femmes, ouais.
Avec les transgenres, mais voilà. Et donc, la grande majorité des cadres sont les femmes. Et sur la production minuscule, le couple, un homme, une femme, de la réalisation, les deux directrices de production, live et animation, deux femmes, la monteuse femme, la première assistante réalisatrice femme, voilà. Et des hommes aussi, bien sûr, mais voilà.
On reste quand même sur des pourcentages assez déséquilibrés, puisque effectivement, je pense que sur les trois dernières années, on est passé de 32% de femmes à genre 37%, donc on n'est pas encore à la parité. Et puis après, il y a le problème du salaire, où là, effectivement, dans les cadres, on est à peu près 10% de delta. Et quand on est dans les métiers plus techniques, on est plutôt à 16-17%.
Il y a un écart de salaire qui est tout à fait injustifié en France et dans notre secteur
qu'il faut préserver.
Il n'y a aucun doute. Voilà. Mais c'est pas, je trouve que le problème est plus important pour les classes populaires
mais
que
l'un n'empêche pas l'autre.
Ouais.
C'est double punition. Ouais. Voilà.
Mais d'ailleurs, Patricia Deville, ça fait longtemps que vous organisez des rencontres à Annecy, avant même de signer la charte 50-50. Vous organisiez déjà des rencontres internationales du cinéma d'animation autour des femmes, enfin pour les femmes.
Absolument. En fait, je dois dire que les femmes américaines nous ont pas mal montré la voie et qu'elles se sont organisées il y a déjà de nombreuses années. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes américaines qui sont à la tête des gros studios, Disney, Nickelodeon, etc. Pixar, c'est beaucoup de femmes. Et traditionnellement, elles se sont organisées entre femmes de l'animation. Et on les a rencontrées il y a 5-6 ans à Annecy. Et on a décidé de suivre leur exemple et de commencer à monter une association en France qu'on a montée en 2014. Et ensuite, dans la foulée, on a décidé de créer ensemble une journée internationale des femmes dans l'animation qui, cette année, va avoir lieu pour la troisième fois le lundi, la veille du départ du début du salon. C'est toute une journée de conférences sur tout un tas de sujets intéressants, sur les.
Il vaut mieux qu'ils soient intéressants, hein. Franchement.
Non, mais surtout, il y a des personnes très intéressantes qui interviennent sur tous les sujets qui intéressent les hommes, les femmes, et la parité, et le travail en commun, etc. Parce que c'est pas du tout exclusif, le but étant plutôt d'être le plus inclusif possible. Et l'année dernière, d'ailleurs, le Grand Prix de. Je me rappelle plus comment il s'appelle, donné d'Annecy, qui va être donné cette année d'ailleurs à Xilam, était donné à l'association des femmes, les deux associations.
What I'm pulling, what the fuck is your motive? Man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology, you are such a distraction. That's what Tiana are, fucking up my ambiance. Pause, you drive me cuckoo and not call, cause I want you like Leon. Okay, say it, get it. Okay, wait a minute, I dread that shit, I am on. Walk curiosity, keep the feline.
4, 4, 4, 4, 4.
I Think, le nouveau titre toujours totalement allumé du Californien Tyler, The Creator, la programmation Je pense, donc je suis, de Jean-Baptiste Audibert.
Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie.
Le nouveau rendez-vous,
Loulou, le poulet, Mireille, la belle, et bien sûr, Carole, la luciole. Jusqu'au jour où cette belle harmonie va bientôt être troublée par l'arrivée d'un curieux visiteur.
Laurent Goumard.
Je vois la vie en rose.
Qui allait tout bouleverser.
Mesdames et messieurs, les petites bêtes,
le spectacle va pouvoir commencer.
Sur France Inter.
Merveilleux jingle, oui, dû à nos créatrices.
C'est un mélange de minuscule et des drôles de petites bêtes, parce que minuscule, ça parle pas. Donc sinon, on aurait entendu que...
Faites-vous plaisir, Benoît Lagarde, il n'y a aucun problème. Le cinéma est animé ce soir. Non,
mais j'aimerais bien savoir c'est quoi comme insecte.
Ça, c'est la coccinelle qui fait... Et surtout, c'est très bien pour l'exportation. Parce qu'il
n'y
a pas
à deux fois.
Je sais pas ce qu'elle a bu, la coccinelle.
Ce qu'elle a pris, elle commence à piquer.
C'est un film d'animation, ça s'adresse principalement aux enfants, donc ça a besoin d'être doublé, mais ça coûte assez cher le doublage, ouais. Ça ne peut pas être sous-titré, donc effectivement, c'est un avantage.
On parle de cinéma d'animation, vous l'avez compris, au Énervé ce soir, à 10 jours du Festival d'Annecy, à la veille de la sortie en DVD du plus petit des blockbusters d'animation, Minuscule, on en parle avec nos invités. Première question, parce que quelquefois, on parle de succès ce soir, de gros succès, mais il peut y avoir des plantades énormes. Avril et le monde truqué. Après Tardi, ça n'a absolument pas fonctionné. Et vous dites, Patricia Deville, vous connaissez bien le travail sur le marketing, vous dites qu'autour du cinéma, il faudrait que les distributeurs apprennent à assurer la promotion des films d'animation d'auteur. Comment doivent-ils s'y prendre justement pour assurer cette promotion? Qui on invite? Nous, on invite, par exemple, des réalisateurs. Ah ben tiens, elle applaudit, Guillaume Todicino.
Mais c'est tellement vrai.
Ben oui.
Il y a d'abord un problème de montant. C'est-à-dire que c'est vrai que les films américains, quand ils viennent ici, le montant du budget de marketing est équivalent au budget de production. Donc là, on peut pas lutter. D'accord. Et malgré tout, des mois et des mois d'affiches un peu partout. Okay. Bon, voilà. Après, c'est parce que vous parlez d'Avril, par exemple, c'est vraiment un problème de ciblage aussi de à qui s'adresse le film. Et donc là, il y a visiblement, enfin en tout cas, c'est ce qui se dit dans la profession, eu un problème d'adaptation de la cible et du film. Et ça, c'est la clé des films. Et c'est pour ça que parfois, les films un petit peu famille adulte font peur parce qu'on ne sait pas à qui on va s'adresser. Les gens qui font le marketing ne savent pas trop qui va être la cible des journalistes et puis du public.
Donc, Guillaume Todicino.
Mais parce que sur ces films qui ont une identité un peu spéciale, mais comme Avril, effectivement, en fait, je trouve que l'erreur, c'est qu'ils veulent tout de même essayer de le fourguer au plus grand nombre. Voilà. Résultat, ils ne le vendent à personne. Parce que le message est suffisamment flou et global pour que personne ne sache en fait de quoi ça parle ce truc-là. Et en revanche, s'il faisait le choix peut-être un peu ambitieux de cibler un public même de niche, par exemple Avril ou Le Monde Truqué, c'est typiquement ce qu'on peut estimer être du steampunk, c'est-à-dire même des geeks qui aiment la BD, qui aiment un peu comme ça le rétrofuturisme, ils seraient allés à fond là-dedans. Ils auraient pas évidemment eu grand-mère, grand-père, les petits-enfants et la bécane à Jules, mais ils auraient eu un certain nombre d'entrées et de gens qui en plus seraient sortis satisfaits et auraient peut-être fait du bouche à oreille. Mais à force de vouloir en gros beaucoup embrasser,
oui, mais on embrasse bouche à oreille, personne. On lui donne pas le temps. C'est ça aussi le problème, c'est que il y a un moment, si dans les 15 jours vous avez pas performé, voilà. Donc c'est un petit peu
pour votre film quand même qui a fait 200, je crois, ou 250 000 entrées.
C'est pas mal, hein.
C'est pas mal quand même.
Parce qu'il y a des films d'auteur ou même des films français qui n'y arrivent même pas.
En animation, c'est pas
suffisant.
Bien du tout.
Et non, c'est pas suffisant.
Le prix des films,
ça coûte très cher. Vous êtes producteur, vous le savez.
Oui. Mais bon, je pense qu'il a peut-être produit pas trop cher, comme le film de Jérémy. Ils ont fait attention à l'économie du film puisqu'ils savaient que le public ne serait pas massif. J'espère qu'il y aura un grand succès public, bien sûr. Mais voilà. Donc voilà, c'est des films quand même qui sont produits deux fois moins cher ou trois fois moins cher que les films d'animation. pour la famille. Quoi.
Jérémy Clapin, grand prix de la semaine de la critique à Cannes pour J'ai perdu mon corps, sélectionné à Annecy. Il y a même pu y avoir le titre sur l'affiche. Tout est marqué dessus. Sélectionné à Cannes. Ouais, grand prix à Cannes, sélectionné à Annecy.
J'ai prévu pas mal de places.
Ça s'appellera J'ai perdu mon titre.
J'ai perdu mon titre.
Non, mais vous voulez avoir un droit de regard sur la façon dont on va justement communiquer sur votre film?
Oui, après, on nous dit clairement, une fois que le film est terminé, Jérémy, tu t'en occupes pas de cette partie-là.
Ah non, ne faites pas cette erreur-là.
Oui, ben je m'en suis...
Ah bon,
de toute façon, quand on me dit « t'en occupes pas », je m'inquiète toujours.
Tout de suite, généralement.
Donc, non, l'affiche, d'ailleurs, c'est moi qui ai fait l'affiche, je tenais vraiment à la faire. Et là, on va attaquer la bande-annonce du film, on va refaire une bande-annonce pour le film, c'est en chantier, totalement, pour avoir vraiment quelque chose de... Je pense à la hauteur de la proposition du film, mais pas aussi essayer de ressembler à une comédie romantique un peu à la con, et etc. quoi.
Pour Minuscule, c'est beaucoup plus simple, du coup, quand même, pour promouvoir ce genre de film d'animation, parce qu'avec déjà les insectes, enfin, même Laurent Vallière, pour faire sa couverture de son livre, il prend une coccinelle. C'est la fameuse coccinelle.
Oui, mais Laurent Vallière, il prend pour son livre une coccinelle 10 ans après l'émergence de Minuscule, qui a été très difficile, hein, quand même, quoi, il y a 10-12 ans. Hein. Oui. C'est quand même très spé, hein, quoi. C'est mélange images réelles, animation, les personnages sont semi-naturaliste, pas très développé, parce que ce sont censés être plus ou moins des animaux, des insectes réels. Donc, non, c'était très difficile.
C'était très difficile de s'imposer?
Ah oui, très difficile. Un film sans dialogue d'une heure et demie, c'est très difficile. Avec des personnages qui sont pas comme vous et moi, qui sont un peu des bestioles, oui, c'est très difficile.
Oui, alors, le film.
Moi, je me suis complètement.
Le film, effectivement, mais sur la partie promotionnelle, est-ce que c'était pas plus facile, finalement, de pouvoir jouer sur ces personnages animaliers, ces insectes, qu'on a déjà vu dans du cinéma d'animation?
Disons, dedans, il y a quand même une araignée, il y a tout de même plusieurs araignées, il y a un cafard, hein, je le disais tout à l'heure. C'est peut-être moins difficile qu'un film comme celui de Jérémy, qui en plus s'adresse principalement ou uniquement aux adultes, et avec la connotation de l'animation qu'on connaît, mais ça reste quand même difficile, quoi. Et par ailleurs, il y a l'obstacle général des films d'animation français ou étrangers, c'est que nous n'avons pas de comédiens connus à l'image, donc qu'on peut inviter à la radio ou à la télévision parce que ça plaît au public, et voilà. Alors on a parfois des comédiens qui font les voix, ce qu'on n'a pas dans Minuscule, puisqu'il n'y a pas de voix.
Bah, c'est vrai, ouais, que vous êtes mis pas mal d'obstacles. Hein.
Tant mieux. Hein.
Ah, vous en avez marre aussi de voir.
On a ras le bol, là, ouais. Franchement, mais c'est pas possible, quoi. Maintenant, le titre est plus petit sur l'affiche qu'avec les voix de machin, de trucs et de bidules. C'est insupportable. D'autant que, quand même, à part un ou deux très joli miracle, c'est-à-dire vraiment des acteurs qui s'investissent, où ils jouent très très bien, etc. Je pense à Guillaume Gallienne d'ailleurs, dans un film récemment où il faisait la voix du chien de la reine d'Angleterre, où c'était tellement lui, c'était parfait. Mais à part ça, enfin, ils viennent faire des panouilles, on les reconnaît pas, on s'en fout. Enfin, c'est un scandale, ce truc.
Si on veut avoir accès au JT de 20h de France 2 ou de TF1,
c'est ça.
Voilà, moi, il faut un comédien. Quand on a dû faire des doublages, on nous a dit.
Eh ben, faut inviter le réalisateur, ça va, il n'y a pas de honte.
J'aimerais bien qu'on les valide.
Non, mais c'est vrai que c'est important pour faire des plateaux, pour faire des télés, etc. Et d'ailleurs, le résultat, c'est qu'à Annecy, cette année, il y a Camélia Jordana qui est dans le jury, alors que bon, j'ai rien contre elle, hein, mais ça m'a surprise, quoi, de voir. Parce
bon,
que
sur Minuscule, pour revenir à Minuscule, comme il y a effectivement un attachement assez généralisé depuis quelques années, on a eu quand même droit aux 4 JT sur le premier film de 20h.
Juste un exemple, il y a quand même les films de Jacques-Rémy Girard, je pense notamment à Mia Lumigou, qui utilisait des comédiens connus, Pierre Richard, Danny Boone, et là, pour le coup, le travail est fait que vraiment, c'est les personnages, c'est la voix de ces comédiens qui ont nourri l'animation et pas l'inverse. Parce que le problème, c'est quand on utilise un comédien juste pour faire du marketing, quoi.
Jérémy Clavin ?
Moi, en tant que spectateur, j'ai du mal à reconnaître un acteur derrière la voix derrière un personnage qu'on essaie de m'inventer. Je vois systématiquement l'interprète si je le connais.
Ouais.
Donc, moi, c'était évident. Je voulais choisir des voix peu connues, en tout cas qui étaient méconnues. Je ne sais pas si c'est péjoratif de dire ça. Et je pense que c'est un frein aussi pour l'animation, si déjà on doit commencer avec une contrainte comme ça, d'avoir quelqu'un qui soit identifiable pour légitimer le succès du film, en tout cas essayer d'anticiper un minimum de succès pour le film. Voilà, donc moi c'est une pure approche spectateur, hein, pour mon choix sur le film.
Une dernière question, et puis c'est un marronnier. Il existe un style français pour l'animation? Parce qu'on parle toujours d'une exception de l'animation française, Guillaume Todicino. Dans Revers de Manche, vous pouvez y aller.
Il n'existe pas, je ne sais pas s'il existe un style français, mais il existe des grands créateurs français et des grands héritiers. Donc j'en ai un à ma gauche là.
Clapin.
Mais il existe des La Guillonie, il existe des Oslo, il existe des noms. les Américains, il existe des studios. Et chez nous, il existe des messieurs et des dames, des créateurs.
Cinéma d'auteur. Merci à vous, Philippe Delarue. Minuscule 2, ça paraît demain en DVD aux éditions Montparnasse. Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps au Festival d'Annecy. Ça se déroulera du 10 au 15 juin prochain. Puis encore, bravo pour cette palme d'or. Allez, on va donner la palme d'or. Ah, Patricia Deville, vous serez à Annecy. En attendant, je renvoie vers le site d'or. Du collectif Les Femmes S'Animent. C'est Les Femmes S'Animent. .fr et Guillaume Etodicino. On vous retrouve dans les pages de Télérama et sur France Inter chez Ali Rebéi. Ça vous va ?
Oui, et puis le livre que l'on peut annoncer peut-être.
Oh, ça va,
mon
ça
papa,
va.
Mon papa. Mais non.
Non, c'est Toscan, papa et moi, je l'ai coécrit avec Ariane Toscan du Plantier.
Parce qu'à deux, c'est toujours mieux. Eh bien, à deux, la pop, c'est encore mieux. Voyou en duo avec Yael pour Les Bruits de la Ville.
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide. Perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent. Toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées. S'élançant comme une rivière, pressée de rejoindre son cœur.
C'était Voyou et Yael dans le NRV, programmation Voyelle de Jean-Baptiste Audibert. Et oui, le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Cette année, vous le savez, hein, ça commence à 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast. Et on se retrouve à l'antenne, il n'y a pas de raison, 22h minuit. On reste en lien sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag NRVFI. La réalisation était signée ce soir Anne-Cécile Perrin et Juliette Medevielle. À la préparation, toujours Virginie Rouzic, toujours Corinne Valente, leur grand Besançon, Benoît Lagan, Gaëtan Lévy et Louisa Chauss. À la technique ce soir, Pauline Laverdure et Serge Viguier. Demain, on se retrouve toutes et tous et on sera là avec eux.
Ce soir, je pars très loin. Nos rêves sont finis.
Et
Et oui, le son de Pépite, un duo pop estilé, ce sera en live avec leur premier album Virage. À leur côté, François Allu, premier danseur hallucinant de l'Opéra de Paris. Et dans le NRV, la suite, dossier terrorisme, on n'en a pas fini. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.
Rendez-vous.
Tu vas donner rendez-vous demain.